Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Campus 106,6. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia avec la moto au féminin. Bonjour Patricia.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, une invitée que nous attendions depuis très longtemps est dans notre studio. Et donc il s'agit de Fanette Bossuite, que nous avons déjà eu à plusieurs reprises au téléphone ces dernières années, qui nous a parlé donc de son périple dans les terres australes. Et voilà, je pense que les auditeurs assidus de nos émissions reconnaîtront tout de suite Fanette parce qu'ils l'auront aussi suivie sur son blog, tous les moyens actuels qui nous sont proposés par le net. Et Fanette, comment te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ?
Tout d'abord, bonjour Lamiche, bonjour Patricia et bonjour à tous les auditeurs. Je suis très contente d'être enfin en vrai, en chair et en os avec vous aujourd'hui, après toutes ces émissions au téléphone et à plus de 20 000 km de chez nous. Donc je suis ravie d'être là, merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas via l'émission, je suis partie donc il y a 4 ans d'Europe, de Lille, dont je suis originaire, où j'ai passé mon permis moto en 2013. Et j'ai rejoint la Nouvelle-Zélande, où j'ai acheté une BMW 650 GS. Et pendant un an, j'ai fait 26 000 km sur cette moto, avant de partir pour l'Australie et acheter une Suzuki DR650. Et ça fait 2 ans et demi maintenant.
Donc, une grande pratique maintenant de la moto et de la moto off-road surtout, ou d'autres... Tu as essayé de découvrir la moto sur tous les plans qui pouvaient se présenter à toi, toutes les opportunités.
Oui, alors mon expérience était surtout une expérience de motoroute avant de partir et elle était quand même très limitée. J'ai découvert le off-road en Nouvelle-Zélande. J'ai découvert de façon un peu difficile, hein, en commençant sur un gros cube quand même pour se lancer dans le off-road. Ensuite, en Australie, je me suis quand même un petit peu plus lancée dans le motocross. L'an dernier, on s'était appelé, je venais de faire ma toute première journée d'enduro sur une 250. Et depuis, je me suis acheté ma propre Yamaha 250, mon propre motocross. Et donc depuis qu'on s'est parlé en février dernier, j'ai continué en off-road avec la 650 sur la côte ouest de l'Australie.
Voilà, à notre dernier contact, tu étais donc à Perth.
C'est bien ça, dans la ville de Perth, qui est la plus grande ville du WA, donc Western Australia. Et j'ai remonté jusqu'à Broome de février à juin de cette année, et avant de rentrer à Lille il y a 2 mois.
Donc nous sommes très curieux, Fanette, de toutes tes aventures que tu as pu avoir depuis Perth. Et donc nous te proposons de te retrouver juste après notre petite pause musicale.
Followed her to the station with a suitcase in my hand. In the eyes.
Le magazine de la moto tous les dimanches à partir d'11h, c'est sur Radio Campus Lille. Et on repart avec Fanette avec ses aventures là-bas en Australie.
Oui, alors là, on repart à Perth, sur la côte ouest de l'Australie. Là où on s'est quitté en février dernier. Donc, après mon départ de Perth, où j'ai enfin changé tout mon matériel de camping parce que tout tombait en morceaux, hein, j'avais vraiment transporté tout ce que j'avais depuis 3 ans, c'était rincé. J'ai tout changé, je me suis rééquipée, j'ai fait un service de la moto qui était aussi dans son jus. Après quelques petites pannes électriques et puis quelques petits problèmes, j'ai donné un petit coup de frein à la moto et je me suis remise sur les routes, donc les routes de gravier, les routes de sable, repartie à l'aventure sur la côte ouest, où c'est beaucoup de plages, beaucoup de sable, qui est devenu un peu mon terrain de jeu favori maintenant à moto. Alors de Perth, je suis remontée donc vers le nord. J'ai essayé de suivre la météo, parce que ça c'est quand même important en Australie, hein. Il faisait beaucoup trop chaud, donc en février, pour nous en Australie, c'est le milieu de l'été, hein. Pendant que vous pelez les miches, nous on est en train de cuire, donc impossible pour moi d'aller dans l'intérieur des terres. Ce qu'on appelle l'outback, l'intérieur des terres, c'était impossible pour moi de passer par là, donc j'ai vraiment suivi la côte. Il a fallu que je reste au plus près de la mer, de l'océan, pour rester un peu au frais. Ce qui ne me dérange pas du tout, parce que j'adore le sable, j'adore rouler dans le sable. Mais je crois que Momo, donc mon DR650, n'a pas toujours été très ravi de ce que je lui ai fait vivre.
Et disons que là, on imagine, voilà, t'as du temps devant toi, tu remontes donc vers le nord. Mais comment tu as pu organiser tes temps, je dirais, de route, les temps où tu devais par nécessité, puisque tu l'avais évoqué, hein, le travail régulier que tu pouvais trouver suivant les opportunités. Comment tu t'es organisé, hein? Donc, tu avais un projet ou alors c'est fonction un peu des circonstances?
Alors, en général, là, depuis que je suis partie, je m'arrange pour travailler 6 à 7 mois dans l'année et rouler et camper et voyager le reste du temps. C'est comme ça que j'aime faire. J'aime travailler beaucoup d'un coup. Quand je travaille, je fais que ça. C'est des grosses semaines, des grosses journées. J'ai pas de vie. Je mets tout de côté, je dépense rien. Et derrière, ben après, 5 mois, 6 mois...
Ça te donne une autonomie, voilà, au niveau ça. Financier.
Tout est dépensé dans l'essence pour la moto, la, ouais, nourriture, les réparations.
Parce que c'est une chose à souligner, en fait, tu t'autofinances.
Ben complètement. Après, j'ai un visa qui m'autorise à faire ça. J'ai un visa qu'on m'appelle vacances-travail. Donc, je suis légalement autorisée à travailler. Donc, j'ai la chance de pouvoir financer mon voyage en même temps que je suis là-bas, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde dans tous les pays. Du coup, après, il faut aussi rappeler que le voyage en moto, c'est très, très cheap. Hein, c'est vraiment pas cher. On paye moins d'essence que pour une voiture, un 4x4. Ensuite, moi, j'ai une moto qui demande très peu de maintenance, qui est quand même super facile à entretenir. Et puis, je fais du camping sauvage. J'ai aussi des besoins quand même assez basiques.
T'as pas peur ?
En camping sauvage ?
Ah oui, parce qu'en Australie, dans le bush, il y a des serpents, il y a des crocodiles,
des
dinosaures.
Il y avait des mots tabous, l'ami, je pense, s'était mis d'accord.
Les fameux crocodiles. Non, allez, on va parler de crocodiles, je sais que ça fait plaisir.
Alors, explique-nous un peu comment tu pars alors, et tu campes comme ça, toute seule ?
Oui, la plupart du temps,
vraiment,
toute seule.
Vraiment toute seule ?
Oui, oui, la plupart du temps, toute seule.
Voilà.
La plupart du temps toute seule, je rencontre des gens sur la route, évidemment, des gens qui font la même chose, hein. Je suis pas la seule à camper et rouler dans le bush, surtout avec le Covid, les Australiens ne pouvant pas aller à l'étranger, ben, ont énormément pris les routes de leur pays, donc c'est sûr que je suis pas seule sur les routes, mais mes initiatives, je les fais seule et mes voyages, je les entreprends seule. Donc oui, camping sauvage, mais ça se fait très bien là-bas. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de danger. Les animaux sauvages et tout ça, ça reste un peu un mythe. Hein. Voilà, des crocodiles, il n'y en a pas dans toute l'Australie.
Il y a quand même les kangourous qui traversent la route.
Oui, mais du coup, on évite de rouler la nuit. c'est mieux. Et les kangourous, en journée, on les voit venir, on arrive à les éviter, a priori. Ça, voilà, ça m'a jamais trop posé de problème. Donc voilà, je travaille, je voyage le reste du temps, je vis chichement. Voilà, ça me coûte pas non plus beaucoup d'argent. Je rencontre beaucoup de personnes, donc il y a énormément de générosité. Beaucoup de gens qui m'invitent chez eux, qui m'aident, qui me soutiennent. Beaucoup de mon matériel, c'est des objets qu'on me donne et qui sont des objets, des vêtements réutilisés. Beaucoup de mécaniciens qui m'apprennent à faire moi-même les choses et qui me donnent généreusement de leur temps, oui,
parce
et de
que
leur savoir.
À suivre tes aventures, c'est bien sûr le voyage à moto, mais derrière, on a l'impression que y a ce qui sous-tend, tous tes choix, c'est le désir d'apprendre. Donc d'apprendre au niveau mécanique, mais aussi d'apprendre à rouler, de varier les terrains, de varier les expériences, mais à moto. C'est par rapport vraiment à l'objet aussi moto, qui est plus qu'un objet, puisqu'il a un nom.
Oui, Momo. tu résumes très bien, tu résumes assez bien mon mode de vie, qui est aussi mon objectif au quotidien. C'est vraiment cette motivation d'apprendre tous les jours. Et pour moi, s'il y a une journée où je n'ai pas appris quelque chose, c'est une journée un peu de perdu. Que ce soit un nouveau travail, donc j'adore m'arrêter dans une ferme et puis découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et puis apprendre ce qui se passe avec la moto, une nouvelle panne. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Apprendre un maximum de choses, que ce soit la conduite à moto, que ce soit la mécanique. Voilà,
mais c'est... tout ça pour donner envie aussi de te retrouver sur les posts que tu as pu faire. Il y a des photos où on te voit, ou des petits bouts de vidéos où on te voit justement quand tu travailles avec les moutons, où on te voit quand tu apprends avec des papas d'adoption en quelque sorte au niveau mécanique. Donc tu as vraiment eu une expérience jusqu'ici très très riche.
Ouais, en même temps c'est une c'est pas juste un voyage, c'est un mode de vie. Ça fait 4 ans que je suis partie, donc c'est pas des vacances. Et je vis au quotidien là-bas, je travaille, donc du coup j'apprends des nouveaux métiers. Donc les moutons, les vaches, métier de ferme. Moi, je suis quand même une citadine. Hein. Donc
là, tu nous expliques un petit peu.
Là, j'ai tout à apprendre.
Où tu travailles dans une ferme, apparemment, avec des animaux.
Et
à quel endroit?
J'ai travaillé en ferme laitière, j'ai travaillé en ferme bovine, en ferme ovine. Mais là, je vais vous raconter un peu les autres métiers que j'ai fait et que je ne pensais jamais faire dans ma vie.
D'accord. On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
I won't tell a soul, even when I get old. Offer me trinkets, wealth, money, I'm not sold. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote, I'm told. Tell a soul, even when I get old, and the pavement isn't gold, I'm comfortable, I'm told. I won't tell a soul, even when I get old. Yeah, even when I get old. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote, I'm told. Watch it on my black and white TV. 2 channels, not 43. The picture was grainy, not much to see. It's always made me curious, you see. And then the man said, say. Yes, I do. Was the moon landing? Filmed in Lanzarote, I'm told. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote. That's what he said.
Tous les dimanches à partir de 11h, aujourd'hui avec la moto féminin avec Patricia et Fanette, qui vit depuis 4 ans hein, maintenant en Australie, et qui nous explique un petit peu comment on fait pour faire de la moto et vivre aussi, et avoir de l'argent aussi.
Voilà, le nerf de la guerre, parce qu'on ne vit pas que d'eau, d'amour et d'eau fraîche en Australie, l'eau oui, l'amour on en reparlera, ou pas. Mais en tout cas, le travail, c'est nécessaire. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai un visa qui m'autorise à travailler en Australie, le visa vacances-travail. La première année, il faut travailler 3 mois en ferme pour renouveler sa deuxième année de visa. La deuxième année, il faut travailler 6 mois en ferme pour renouveler sa troisième année de visa. Troisième et dernière. Là, j'ai largement dépassé ça parce qu'il y a eu le Covid et que j'ai un petit peu la chance d'être sur des visas provisoires via le Covid.
Tout le monde peut en bénéficier ou il y a une limite d'âge ?
Non, il y a une limite d'âge. Tu fais bien de poser la question. C'est des contrats de pays à pays. Et la France et l'Australie se sont mis d'accord à une limite de 35 ans. Donc,
ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas travailler si tu as plus de 35 ans, c'est ça ?
Si tu as plus de 35 ans et que tu veux aller en Australie, pas dans ce cadre-là. Il faudra que tu partes en visa touriste ou alors que tu trouves que tu fasses une demande de visa travail, mais ça veut dire qu'il faut un employeur sur place déjà. Enfin voilà, c'est un peu plus complexe. Donc oui, c'est limité à 35 ans pour les Français. Avant, c'était 30 ans, donc c'est quand même pas mal.
Faut que tu te dépêches, Rafanette.
Non, mais moi, c'est bon, je suis dedans, là. Je ne dirai pas mon âge. Et donc voilà, ça permet de découvrir des métiers que j'aurais pas forcément fait si j'étais restée à Lille ou en Europe. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé en ferme, ferme laitière, ferme bovine, sur les motos, les quad bikes avec les chiens, donc
les gros engins aussi,
voilà, les tracteurs, Donc ça me plaît énormément. Je ne le fais pas uniquement pour les questions de visa, je le fais également parce que j'étais très curieuse de découvrir ce monde et cette vie. Et c'est devenu une vraie passion. J'ai commencé à faire une formation en ligne pour devenir agricultrice. Et c'est un objectif, quand je vais retourner en Australie, mon objectif est en effet de m'installer dans une ferme sur le long terme, quand j'aurai fini mon voyage, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et il y a d'autres métiers complètement improbable que je pensais pas du tout faire et qui dans la suite de mon voyage sur la côte ouest se sont présentés à moi. Parce que donc pour répondre à ta question tout à l'heure Patricia, d'habitude je travaille 6 mois et je voyage 6 mois, mais donc je suis partie de la ferme l'an dernier en novembre et j'ai repris la route en novembre jusque juillet. En fait j'avais prévu de rentrer en France. Voilà, il était peut-être temps de revoir un peu la famille. J'avais pas d'intérêt à m'arrêter encore sur une longue période dans une ferme. Du coup, là, j'ai vraiment pris ce qui s'offrait à moi sur la route pendant mes aventures. Et j'ai fait des petits jobs à droite à gauche pendant quelques semaines.
Et alors, ces petits jobs, c'était intéressant aussi? C'était été l'occasion de nouvelles aventures, en quelque sorte?
Complètement, de nouveaux apprentissages. Alors voilà, au moins, ça me permet de savoir des choses que j'ai pas du tout envie de faire et des choses qui sont vraiment fantastiques. Sur la côte ouest, après être partie de Perth, je me suis retrouvée dans un patelin qui s'appelle Carnarvon. Et ouais, c'est vraiment un bled, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est pas non plus l'endroit hyper touristique. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais moi, je suis passée par là pour rencontrer une connaissance de connaissances et avoir un endroit un peu où laver le linge, faire les courses, réparer la moto parce que j'avais un peu plié le guidon dans le sable quelques jours avant. Voilà, un petit peu faire... voilà. Régulièrement, sur la route, il faut refaire le point. Il faut recharger les batteries de la moto et puis du corps. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler dans la compagnie de transport routier où je m'étais arrêtée chez cet ami. Et je me suis retrouvée à travailler pour eux quelques semaines. Et ensuite, ils m'ont proposé un contrat de travail plusieurs semaines plus tard, un peu plus au nord. Et là, j'ai travaillé pour une compagnie minière qui est une des industries principales de l'Australie. Hein, il faut quand même le rappeler, c'est l'industrie minière. Voilà, j'ai travaillé, j'étais au contrôle du trafic avec ma petite radio. Et avec mon accent français, je disais aux camionneurs australiens s'ils avaient le droit de passer ou pas, de rentrer, de sortir. C'était assez folklorique, hein, parce que tout le monde ne comprenait pas. Moi, j'avais du mal à comprendre leur accent coupé au couteau d'Australien routier de l'Outback. Et eux, ils se demandaient c'est quoi cette Frenchie à la radio là.
Ça leur met un petit peu de voilà, piment durant leur boulot. Quoi.
Mais voilà, c'était exotique, j'imagine. C'était exotique pour tout le monde. Voilà. c'est pas forcément le job que je referai en retournant là-bas. Par contre, quelques semaines plus tard, c'était pas du tout prévu. Sur la route, donc je suis passée par Broome, j'ai fait ma licence de plongée, ça c'était vraiment super. J'avais besoin d'arrêter d'être tout le temps sur la moto, de faire autre chose, découvrir d'autres choses. Et puis ensuite, à Broome, qui est vraiment une très belle région, la région de Kimberley, dans le nord de l'Australie, là je suis tombée en panne. Et je suis si bien tombée en panne que Momo ne roule d'ailleurs toujours pas depuis. Et ça m'a amenée dans d'autres aventures et péripéties professionnelles.
Donc, du style de quoi?
Du style qu'en fait, je suis tombée en panne donc dans le bush australien. Autant
alors,
dire...
le bush, c'est le centre, hein, le centre de l'Australie.
Alors, le bush, bah, disons que... Non, là, je n'étais pas dans le centre. Disons que le bush, c'est tout ce qui n'est pas une ville. C'est la campagne. Donc,
quand on dit la campagne, on ne peut pas imaginer ici en France ce que c'est que la campagne. Parce que la campagne, tu as des villages tous les 15 km.
C'est ça.
Mais là-bas, non.
Non, non, non.
C'est pas comme ça.
Non, c'est ça. Donc ce que j'appelle bush ou outback, c'est tout ce qui s'éloigne des grandes villes et des zones urbanisées, des zones urbaines. Le bush, c'est quand on n'a plus de bitume, c'est que les routes de piste. Et c'est quand il y a des stations essence tous les 500-600 km et qu'il faut s'organiser un petit peu, qu'il faut prévoir.
Ah oui.
Qu'il y a très peu de produits frais, qu'il n'y a pas de supermarché. Que voilà, c'est une autre vie. C'est quand la station essence, c'est aussi la poste, la mairie, le supermarché, le lieu de rencontre, le camping, l'office de tourisme.
Donc il faut faire 600 km pour aller à la poste ou supermarché, non c'est...
En fait, non, parce que le courrier n'est même pas délivré. Il faut aller en ville, dans la grande ville, une fois de temps en temps, pour aller à la boîte postale récupérer son courrier qui est déposé là.
D'accord, c'est pas... tous les deux ou trois mois. Quoi.
Bah, ça dépend. Les Australiens bougent énormément malgré les distances. Les Australiens n'ont aucun problème à faire beaucoup de kilomètres juste sur le week-end pour faire des allers-retours. Ils ont, enfin, c'est normal.
Et donc, tu disais, cette panne t'a maintenue donc, sur place. Et qu'est-ce que c'est devenu ton expérience de la moto? Donc, ça a fait un stop complet ou tu as pu trouver une autre alternative?
Alors, donc, je suis tombée donc, en panne au milieu de nulle part, presque au milieu de nulle part, parce que dans ma grande chance... je suis tombée en panne dans une station de pneus, de changement de pneus, au bord de cette fameuse route qui est la Gibb River Road. C'est une route assez mythique parce que tous les gens fans de 4x4 et de sensations fortes dans la nature viennent pendant la saison sèche, donc en hiver, emprunter cette route. Et en effet, quand on tombe en panne sur la Gibb River Road, il vaut mieux être préparé ou avoir de la thune, chose que je n'avais plus en fait. Donc il a fallu que je travaille dans cette station de pneus pendant 3 semaines. Et j'ai appris pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer le remorquage de la moto. Parce que les camions qui s'occupent de remorquer donc, les âmes désespérées comme moi demandent 2 000 $.
Ah, c'est pas pour rien en Australie. Hein.
Bah ouais, non, mais 2 000 $ pour une moto qui en vaut même plus 300.
Alors,
j'ai travaillé pendant 3 semaines à changer des pneus. Changer des pneus, à faire des ménages, du ménage, à faire un peu de tout. Pour enfin pouvoir ramener un petit peu Momo dans la civilisation et travaller dessus.
Mais on arrive à gagner 2 000 $ en 3 semaines.
J'ai pas payé 2 000 $, j'ai négocié. Non. J'ai payé 600 $.
D'accord.
T'as fait l'expérience de la négociation.
Très bien, Fanette, on fait une pause et on cherche une solution pour réparer ta moto. À tout de suite.
This all about
les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui, on est avec Fanette, notre Australienne française. Voilà. Donc, tu nous parlais de cette panne de moto que tu as eue là-bas en Australie, dans le bush, en fait. Et comment ça s'est passé ?
Bon, alors déjà, tomber en panne dans le bush, c'est la galère. Mais quand on n'y connaît rien du tout, comme moi, c'est doublement la galère. D'abord, j'ai cru que c'était mon engin. J'ai cru que c'était tout simplement la fin, voilà, l'engin qui rendait l'âme. J'avais jamais fait de révision, j'avais jamais reconstruit l'engin. Donc moi, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai pleuré, c'était le grand drame. Et puis à un moment, un copain me dit, mais... Enlève pour voir les bougies. Et là, je me dis, ah, en fait, l'engin est encore en vie, j'ai de la compression. Donc là, je me suis rendu compte, au bout de 2 semaines à changer des pneus dans ma station, là, je me suis rendu compte que j'avais encore de la compression, donc l'engin n'était pas mort.
Ça veut dire, au bout de 2 semaines, ça va.
Ouais, mais j'aurais pu essayer ça dès l'après-midi. Voilà, bon, au moins j'ai appris à changer des pneus, tu vois. Tout n'est pas inutile. Donc quand je suis rentrée à Broome, donc j'ai fait demi-tour avec mon remorquage à $600 et j'ai passé 2 mois à travailler sur cette moto. Au début, j'ai pensé donc, après avoir changé les bougies, j'ai pensé que c'était, alors je suis désolée, je connais que les mots en anglais, j'ai pensé que c'était le stator.
Le stator, donc c'est ce qui fournit l'électricité peut-être, c'est ça, le courant.
Le stator, c'est...
Est-ce qu'on voit le courant à la bougie?
Ouais.
Hein, c'est ouais, ça, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Bah, tu sais, la radio, les gestes, c'est pas très radiophonique.
Ok, donc, voilà. Bon. J'ai remplacé, disons...
Mais c'était pas ça.
J'ai remplacé des pièces qui, de toute façon, n'ont rien changé. J'ai dû attendre assez longtemps pour avoir mes pièces. Ensuite, ça n'a rien changé du tout. J'avais même plus du tout d'étincelles, donc c'était encore pire. Et là, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums, sur Facebook, au téléphone, avec même des gens aux États-Unis, des gens partout en Australie, à demander des conseils, à suivre des indications, des tutoriels. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai fini vraiment par m'arracher les cheveux. Et à la fin, j'étais tellement désespérée que j'avais envie de juste mettre le feu à la moto, quoi. Et en même temps, je me suis dit, c'est génial parce que j'ai fait 76 000 km sur cette moto. Elle en a 117 000 aujourd'hui. Si elle meurt maintenant, si c'est terminé maintenant, au moins, elle me rend service parce qu'elle me force pendant 3 semaines intenses, j'ai tout appris. En tout cas, beaucoup, beaucoup appris de tout le système électrique, de plein de choses que je connaissais, mais pas du tout pendant tout mon voyage. Donc, c'est sûr et certain, si je rachète une moto, c'est la même. Parce que maintenant que je connais tout par cœur, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, la prochaine, ce sera une DR aussi. Hein, parce que... Donc, voilà, la moto ne roule toujours pas réparée. J'ai pas compris, j'ai pas trouvé la panne. J'ai tout vérifié. J'ai changé plein de pièces. J'ai essayé des pièces qui marchaient pour éliminer. Ça n'a pas marché. Pendant ce temps-là, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai travaillé pour un ami qui est astronome et je me suis retrouvée à mettre en place des télescopes sur la Voie lactée et à présenter à plus d'une
incroyable,
centaine...
Ça.
Ouais, incroyable, c'était génial. À présenter à plus d'une centaine de spectateurs 3 fois par semaine, donc des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles.
Et amas d'étoiles, oui.
Voilà, c'était génial.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais donc un objectif en remontant vers le nord. Est-ce que cette panne t'a empêché de le concrétiser ?
Oui, alors c'était assez frustrant parce que j'avais très très envie de faire déjà cette fameuse Gibb River Road. J'avais très envie d'explorer le territoire du nord, Northern Territory, là où il y a les crocodiles. Comme ça, j'aurais pu vous raconter des histoires croustillantes, mais non, faudra attendre.
Il n'y a qu'un seul endroit en Australie où il y a des crocodiles.
Bah, surtout dans le nord, voilà.
Dans le nord, oui.
Mais oui, mais moi, je voulais aller là-haut que
sud,
pour
y
ça.
Il n'y a pas de crocodiles.
Non,
que
y a
pour
pas
avoir
de crocodiles
le, l'occasion de répondre à des questions assez, on va dire, encombrantes.
non, mais à chaque fois, j'ai la question des crocodiles et je reviens bredouille. À chaque émission, je reviens bredouille. Là, je m'étais dit, c'est bon.
Non, mais c'est parce que ça, il y a un film, hein, tu sais. Oui, c'est ça. Hein. Et nous, on ne connaît que l'Australie que par ses films. Hein. Et à chaque fois, il y a des crocodiles. Alors, donc, là, pour une fois qu'on a quelqu'un qui a vécu 4 ans là-bas en Australie.
Non, mais oui, des crocodiles.
On pose la question, on en profite.
Non, mais après, voilà, des crocodiles, j'en ai déjà croisé sur la route. J'en avais déjà vu quand j'étais dans le Queensland et dans le Nord en 2020 et 2021. Mais là, j'allais enfin rentrer dans ces fameuses routes et ces endroits très, très connus d'Australie, déjà pour les paysages, les parcs nationaux, et puis ben, pour les crocodiles. Et c'est vrai que ça, voilà, il y avait une petite excitation, il y avait quand même une petite envie de, bah, d'aventure à la Crocodile Dundee. Hein.
Ça existe des mecs comme ça là-bas, non? Ou c'est que dans le film
Non. Bah, moi, j'en ai pas rencontré des...
Comment ils sont les hommes là-bas Brut de pomme
On va rentrer dans la caricature.
Tendre. Non, mais dis-nous un peu. 4 ans d'expérience australienne. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe?
On se cantonne aux motards ou pas?
Non, mais 2 minutes, voilà, comme ça.
Les hommes à moto, comment c'est là-bas en Australie?
Ou même pas à moto, dans les fermes.
C'est
voilà.
Large, la miche, c'est quoi cette... Ah bon, alors, les hommes dans les fermes, bah, j'ai pas envie de faire de généralité.
Non, je parle des hommes, mais on peut parler des femmes aussi.
Mais j'ai pas envie de faire de généralité. Après,
non, mais en gros,
Le peu que tu aies dit, Fanette, ça nous donne quand même l'idée que tu as rencontré des personnes très différentes, entre un astronome, des conducteurs de camions.
C'est ça, c'est que à travers ce voyage, j'ai vraiment la chance de voguer dans différents milieux, de faire différents métiers.
Oui, et une richesse sur le plan humain.
Donc, que ce soit cette personne qui est astronome et qui a une petite renommée en Australie quand même, on l'appelle le Space Gandalf, il est assez connu pour son travail. C'est vrai que faire de la moto en Australie, c'est un bon moyen de rencontrer des gens et c'est un bon moyen de connecter et puis de découvrir des univers en fait, hein, parce que tout le monde aime la moto et presque tout le monde en fait.
Et on repart en Australie avec Fanette. Fanette, il faut que tu nous parles justement de toutes ces communautés de motards et de motos qu'on peut trouver sur ce continent.
Eh ben, on trouve de tout. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que j'aime autant, je pense, l'Australie. Alors, peut-être que c'est le cas dans beaucoup d'endroits, hein, mais disons que c'est là-bas que j'ai découvert et que j'ai rencontré autant de diversité dans le milieu motard. Et j'ai des amis vraiment... J'ai rencontré et j'ai fait des amis dans tous les milieux motards. Donc, ça va du motocross pur et dur à l'enduro, l'off-road... au classique, à la course sur circuit, vintage, Harley Davidson, tous les types de motos. C'est présent partout en Australie et en fait, il n'y a pas de... Comment dire ?
Pas de cloisonnement.
Il y a des concentres, des hivernales, des rassemblements
C'est une bonne question. Alors, il y a... En tout cas, de mon point de vue... Hein, parce que je me trompe peut-être, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre d'événement parce que le pays est tellement grand que des rassemblements au niveau national, c'est assez complexe. Par contre, chaque État et chaque sorte de communauté motarde a son groupe, sa plateforme et organise des choses. Par exemple, bon, moi je suis beaucoup plus connectée quand même à la communauté off-road. Même si je rencontre de tout type de motards sur la route, je suis quand même connectée à ces gens-là. Et dans chaque État, il y a une page Facebook. Facebook, c'est vraiment l'outil principal pour rencontrer des motards. Et cette page Facebook, dans chaque État, Adventure Rider, Victoria, South Australia, peu importe, permet d'organiser des événements, des sorties, de découvrir des nouvelles routes. Enfin, c'est comme ça que moi, je rencontre la plupart de mes amis. Et que je vais sur des routes où j'ai jamais été, où ça me serait pas venu à l'idée d'y aller toute seule. Donc, pas forcément des concentres à l'européenne, des événements comme ça, mais beaucoup d'événements quand même organisés au niveau régional. En fonction aussi des...
En Australie, il existe un événement majeur qui se passe tous les ans.
Oui. Alors, il y en a quand même un, je ne peux pas l'oublier, surtout pour les amateurs d'off-road et d'enduro, c'est la Desert Race Fink qui a lieu tous les ans au mois de juin. Donc, c'est une sorte de Dakar australien qui a lieu sur 3 jours. Et ça rassemble tous les amateurs de moto, en particulier enduro. Donc ça se passe dans le centre de l'Australie. Ça se passe, on ne peut pas faire plus au milieu, c'est à Alice Springs. C'est en plein milieu de l'Australie. Et c'est tous les ans au mois de juin, donc comme je disais. Et ça réunit vraiment tous les motards. C'est l'occasion pour beaucoup de motards de toute l'Australie de traverser d'ailleurs le désert, comme j'avais fait l'an dernier. Et on s'était rencontrés sur les ondes juste après ma traversée du désert. Et en fait, voilà, c'est un petit objectif pour beaucoup de motards de traverser le désert pour se rendre à cette course et assister à cette fameuse course, la Fink Desert Race.
Alors quand tu parles de désert, c'est quoi ? C'est du sable, un peu comme au Sahara ou...
C'est
de la piste quand même.
C'est des dunes de sable avec une piste de 4x4 qui traverse le désert. Donc il y a quand même une piste de 4x4. Hein. Il y a des chemins. On ne peut pas non plus partir. C'est un parc national. Il y a des périodes de l'année auxquelles c'est ouvert, d'autres auxquelles c'est fermé. Il faut payer un permis pour pouvoir traverser. Et puis il faut quand même suivre aussi les tracks, les pistes officielles. Donc forcément, au mois de juin, avant et après ce grand rassemblement, cette course, je ne trouvais plus le mot en français. Eh ben forcément, c'est un peu une autoroute. Hein. Donc, y a beaucoup de monde. Moi, ce n'est pas forcément une période à laquelle j'apprécie de prendre cette route, parce que je l'ai fait 2 fois. Parce que justement, il y a tellement de gens que ça augmente le risque de collision aussi, en fait, en haut de ces dunes.
On retrouve quel véhicule sur ces routes ?
C'est que du 4x4 et en moto, on est sur du Suzuki DRZ 400, des KTM 350 EXI, on est sur des Ténéré Ténéré 700. Il y a quelques fous furieux qui prennent des KTM Adventure, des 650. Et là, c'est lourd. Hein, on est sur des gros cubes. Au-delà de 650, ça commence à être difficile quand même dans les dunes. Hein. Faut savoir manœuvrer sa machine et pas juste pendant une heure. Hein. Faut savoir la manœuvrer toute la journée dans le sable, dans les dunes. Il y a des gens qui prennent des 250, des 450. Moi, j'ai fait ça avec la Suzuki, avec la 650.
Et comment ça se passe au niveau du ravitaillement en essence et peut-être en eau aussi?
Ben là, il faut transporter son essence, il faut transporter sa nourriture, il faut transporter son eau, évidemment. Il y a beaucoup de tours qui organisent, pas seulement dans le désert, hein, partout en Australie, parce que la problématique, elle est la même dans beaucoup d'endroits. Essence, eau, nourriture. Donc, c'est un business, hein, c'est un vrai marché de tourisme à moto, où des compagnies proposent des voyages dans l'outback, dans le désert, voilà, dans le bush, et ils transportent en 4x4 toutes ces choses-là, tout ce qui est parfois un peu lourd et difficile à transporter à moto quand on est déjà en train de, de se bagarrer avec le terrain. Donc ça, c'est bien pour les gens qui débutent, et puis même pour les gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de se mettre dans des situations difficiles.
Et si on retrouve, si on a une panne, alors comment on fait? On a des...
Bah voilà, si on part avec un 4x4, un véhicule de support, du coup, on est dans la sécurité, parce que s'il y a une panne, la moto va sur la remorque. Par contre, si on est tout seul, ben c'est un peu ce qui s'est passé pour moi aussi sur cette fameuse route. Ben voilà quoi, faut trouver des systèmes D quoi.
On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. motard, bonjour. Le calendrier des motoclubs, c'est parti. Vous êtes président ou motard d'un motoclub ou d'une association et souhaitez publier les dates de vos manifestations dans le calendrier 2023 réalisé par Kikinkout et Toupal. C'est très simple. Par mail à l'adresse générique calendrier@k1c.fr ou sur le site de Kikinkout et Toupal, k1c.free.fr. Et c'est gratuit. De retour sur le 106,6 de Radio Campus Lille, c'est le magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h avec aujourd'hui Patricia.
Ouais, Patricia qui est totalement sous le charme des paroles de Fanette et à t'écouter parler justement. Je suis très sensible à la passion qui t'anime hein, pour la moto, mais aussi la moto pratiquée dans ce cadre grandiose que peut représenter hein, de rouler en Australie. Donc Fanette, là, tu es en France pour quelques mois. Et Comment vis-tu cette pause?
Alors, c'était une pause qui était voulue et très attendue. Le retour en France, en Europe, je l'attendais quand même avec impatience et en même temps, je le redoutais à la fois. Donc un sentiment un peu partagé. C'est-à-dire que 4 ans, c'est long, surtout quand on vit une vie sur la route, à l'étranger, autant de choses. C'est vrai qu'en intensité, moi, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Et puis, ça, j'ai mon corps aussi. Mon corps a pris 10 ans aussi, j'ai l'impression. Donc, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est redouté de rentrer parce que forcément, on se demande ce qu'on va retrouver en rentrant. Moi, j'ai beaucoup changé. Je sais que je ne peux plus et ne veux plus vivre en ville. Je n'ai pas prévu de me réinstaller en Europe dans un futur proche. Ce n'est pas du tout au programme. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et en même temps, il y a le besoin de rentrer chez soi, le besoin de retrouver les miens, le besoin, l'envie. Et c'était un retour programmé déjà en 2020 que le Covid
a différé.
Comme pour beaucoup de personnes, hein, à l'étranger, il y a eu cette problématique liée au Covid où j'aurais pu rentrer. Mais si je rentrais ici, je me serais retrouvée bloquée ici. Je n'aurais pas pu retourner en Australie pour continuer la suite du voyage. Et j'ai préféré donc annuler. Deux fois, j'ai annulé mon retour en France à cause du Covid. Et là, ils ont réouvert les frontières en février dernier. Et ma sœur attendant des jumeaux, j'ai décidé que juillet, ce serait le bon moment pour revenir.
Et donc, par contre, toujours animé par le désir de découvrir, de continuer à rencontrer, d'apprendre, et avec ce vecteur fantastique que peut constituer la moto, tu n'es pas resté sans rouler?
Non, impossible. Impossible, j'ai en effet une Royal Enfield Interceptor, le modèle Interceptor, une 650, depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est la route, c'est le bitume. C'est vrai que ça faisait longtemps. mais c'est pratique pour ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire ici en Europe pour les prochains mois, puisque j'ai prévu de rentrer en Australie en décembre. Donc, pour quelques mois ici en Europe, aller voir la famille, les amis, se balader, j'ai trouvé que c'était une bonne moto pour faire tout ça. Et puis, ça m'a permis aussi d'aller en festival. En septembre, j'ai pu participer à 2 festivals de moto.
Ah oui, et la façon dont tu es sollicité justement pour pouvoir participer à un des 2 festivals est quand même plus qu'anecdotique.
Oui. Alors, en fait, lors d'une émission avec vous, un de vos auditeurs donc m'a découvert et a commencé à me suivre. Donc un couple de motards nordistes, Stéphane et Odile, m'ont découvert à la radio et m'ont supporté pendant plus d'un an dans mes aventures. Et c'est devenu vraiment, sans les connaître, sans les avoir rencontrés, c'est devenu vraiment des gens qui au quotidien me supportaient. Et c'est eux qui m'ont mis en contact avec les organisateurs d'un festival quand je suis rentrée en août. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au mois de septembre aux Pays-Bas, à Koningsbosch, à participer au festival annuel Discover Overland, qui est un festival de voyage à moto et qui invite donc plein de motards à parler de leur voyage dans plein de parties du monde et de toutes les nationalités, en anglais. Voilà, donc j'ai pu présenter.
En anglais.
Donc j'ai présenté pendant plus d'une heure mes voyages et c'était vraiment... C'était vraiment intéressant parce que c'était la première fois que je faisais en fait quelque chose comme ça et ça m'a permis un petit peu de sortir du voyage et d'être dans quelque chose de plus rétrospectif et de voilà de faire une petite transition entre ma vie en Australie et puis le retour ici, transition en douceur.
Et par ailleurs, donc, je dirais ta renommée en quelque sorte, parce que je dirais tu communiques beaucoup par ton blog, tu communiques aussi par rapport à tes contacts, donc tu as été à nouveau invité pour un autre festival.
Alors, en effet, j'ai participé à un deuxième festival au mois de septembre, dans le sud de la France, près de Gap. J'ai été contactée par l'organisatrice Alice Peuple l'an dernier pour participer en tant qu'intervenante sur une discussion avec d'autres femmes qui voyagent dans le monde à moto. Et elle m'a aussi proposé d'être bénévole. Donc je me suis dit, allez, super, je vais pouvoir découvrir un peu la communauté motarde française parce que je ne la connais pas du tout, au final, cette communauté. Donc, j'étais très curieuse.
Oui, et ce festival, c'est le premier du genre en France.
C'est ça, donc le festival, c'est Femmes et Moto. C'est le tout premier festival exclusivement féminin en France. Et il s'inspire de modèles européens. Donc on a le Bootcamp en Italie, les Pétrolettes en Allemagne. En Australie, on a également un festival dans le Victoria qui s'appelle Sheila Shakedown. Et ce sont des festivals en fait exclusivement féminins. Et donc sur ce modèle-là, Alice a voulu proposer un premier genre en France.
Alors, ce qui est impressionnant, c'était sur réservation, hein, puisqu'il fallait donc prendre sa place, je dirais, autant financièrement que se décider. Et ça a été complet très très vite.
Alors oui, il y a un engouement, il y a un besoin. Ça montre quand même que il y a une communauté assez importante en France qui est vraiment croissante. Dans le milieu moto, il y a de plus en plus de femmes. C'est une réalité, c'est génial. Et il y a un besoin peut-être d'accueillir ça et de proposer quelque chose autour de ça, que les femmes se retrouvent pour pouvoir un petit peu se connecter, s'écouter, parler, découvrir d'autres choses. Alors, il y a toujours ce débat sur la question de l'exclusivement féminin. Du coup, on exclut les hommes. Donc, il y a un grand débat autour de ça qui, je trouve, n'est pas forcément à propos et pertinent. L'idée de ce festival, il est de simplement créer un espace où les femmes peuvent se rencontrer.
Écoute, Fanette, moi, je suis sidérée par tout ce qu'on est amené à évoquer. Et encore, ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a plein de points dont on aimerait parler. Et on va se faire une petite pause musicale et puis imaginer ce que ça pourrait donner avec le projet fantastique que tu as, c'est-à-dire d'écrire, du moins, que tu concrétises déjà maintenant, d'écrire un livre.
Le magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille, aujourd'hui avec notre Australienne Fanette. Et tu as un projet, Fanette, de faire un livre.
Oui, donc je vous en avais déjà parlé un petit peu en avant-première la dernière fois. Et ça commence à se concrétiser, disons qu'il a fallu que je trouve le temps sur la route d'écrire ce projet. Donc là, j'essaye de me concentrer un peu aussi dessus, de profiter de mon retour en France pour travailler et finaliser ce projet que je prévois donc d'auto-publier en janvier.
Tu avais commencé à écrire sur ton blog, il y a de très beaux textes. Et ton livre, tu as fait un plan, c'est un bébé qui commence à se développer ou tu l'imagines beaucoup plus déjà grand et structuré. Tu en es où, Fanette ?
Alors, déjà, mon livre sera sur la Nouvelle-Zélande et sur le départ aussi, sur la transition. Ça, c'est pas seulement un récit de voyage, c'est aussi un peu un journal de voyage intérieur. Comment le voyage en Nouvelle-Zélande, le départ, comment tout ça s'est fait en tant que processus et comment à travers ce voyage, il y a aussi beaucoup de choses de mon passé qui ont pu se mettre en place en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer de façon aussi spontanée. Disons juste que c'est un livre qui se structure à la fois sur un récit de voyage autour de la Nouvelle-Zélande, des premières fois, des découvertes, et puis aussi en fait un journal intérieur.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire un cheminement intérieur ?
Ah, c'est exactement ça, un cheminement intérieur. Donc il y a beaucoup de retours en arrière sur ma vie en Europe. C'est très personnel, c'est pour ça que je décide aussi de l'auto-publier, parce que c'est surtout un objectif qui me tient à cœur. Et j'ai remarqué en partageant sur le blog des textes extrêmement personnel, que ça pouvait faire écho à des gens d'une façon que je ne pouvais pas forcément même soupçonner. Et voilà, je me suis dit, ben, si ce qui me fait du bien peut aussi apporter quelque chose de positif, alors banco, j'y vais. Voilà.
Avec cette dimension du partage.
Bah voilà, tout ce que je reçois et qu'on me donne pendant le voyage, j'ai envie de le retransmettre d'une façon et avec moi, bah, ça passe par les mots.
Et donc, on pourrait imaginer plusieurs livres, finalement.
Mais...
expériences. Je pense que si tu commences avec la Nouvelle-Zélande, ça veut dire que tu vas continuer avec autre chose.
Ça veut dire qu'il y aura peut-être un tome Australie.
Ouais. Ah bah moi, alors là, je suis ravie à l'idée. Et alors, le premier titre, est-ce que déjà, c'est en... tu l'as imaginé ou pas ?
Oui, bah alors j'ai le titre. J'ai pour l'instant presque tous les chapitres et je suis à deux chapitres de la fin du livre.
Waouh ! Alors donc la publication, ça pourrait être...
J'ai prévu janvier.
Ah oui, dis donc, c'est génial, on va pouvoir te retrouver à l'occasion de la sortie de ce livre.
Il faudra venir en Australie.
Ah mince. Ou alors que je fasse énormément de progrès en anglais pour pouvoir
parce que j'ai quand même prévu d'être rentrée en Australie d'ici janvier.
D'accord.
Comment ça fonctionne en Australie ? Il faut, pour être résident australien à vie, comment ça marche ?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est un processus assez complexe et pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dedans. Je n'ai pas encore trouvé la motivation. Pour devenir résident permanent, il faut travailler pendant 3 ans pour le même employeur. Employeur qui doit donc nous sponsoriser, ça veut dire que ça lui coûte de l'argent et il doit être approuvé par les services, par le gouvernement. Pour l'instant, travailler 3 ans pour le même employeur au même endroit, ça me semble encore inenvisageable. Déjà parce que je n'ai pas fini mon voyage et j'étais à 3 mois de la fin et je n'ai pas fini. Donc quand je vais rentrer... Certes, je vais travailler parce que j'ai plus de moto, que je la répare ou que j'en rachète une autre, il me faut de l'argent. C'est la saison des pluies dans le nord de l'Australie. Donc quand je vais rentrer, je vais travailler, je vais m'amuser avec la 250 que j'ai achetée l'an dernier. Et puis ensuite, je vais remonter là-haut dans le nord, je vais finir mon voyage et ensuite on verra. Voilà.
Oui, bah, actuellement, c'est le... Comment ça marche ? Il y a 3 faisceaux hein, en Australie.
Ouais,
il y a 3 faisceaux horaires et puis c'est l'été actuellement. Non,
c'est le printemps. C'est le printemps, ça va être l'été là-bas quand ce sera l'hiver ici. Et en fait, l'été dans le nord de l'Australie, c'est la saison des pluies. Donc, impossible pour moi de retourner finir mon voyage quand je rentrerai. Les routes seront complètement impraticables et fermées d'ailleurs.
C'est là qu'on retrouve les gros moustiques. On va pas dans le...
Les gros moustiques. <T'as> été... La miche, l'Australie, à mon avis, c'est pas fait pour toi. Il a peur de tout.
Non, mais je...
Bientôt, voilà, il va dire qu'il tombe des grenouilles, tu sais, pour parler de la pluie.
Ça aime l'eau, tout ça, ouais.
Ouais, 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 il y a des moustiques partout en Australie.
Ouais. Mmh.
Oui, bah, au-delà de ces considérations, donc, parce que quand ton projet de ferme, j'y reviens, ça, c'est vraiment quelque chose que tu imagines pouvoir réaliser ?
Pouvoir, oui, c'est possible. Comme je dis, si je m'engage pendant 3 ans auprès d'un employeur, j'aurai ma résidence permanente et puis bah, je deviendrai fermière. Après, est-ce que là, je suis prête pour ça tout de suite ? Je ne sais pas, parce que j'ai quand même beaucoup la bougeotte et c'est encore, j'ai encore plein d'envies de voyage et d'idées. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette envie de poser ses valises quelque part. C'est toujours ce grand tiraillement entre prendre la route, partir pour l'inconnu, découvrir des gens, découvrir des paysages, pas savoir ce qui va se passer le lendemain, que ce soit une panne ou des belles rencontres, peu importe, c'est hyper addictif, la route. Et en même temps, bah, c'est fatigant, émotionnellement, physiquement. Il y a aussi beaucoup de solitude. On ne revoit pas toujours les personnes qu'on rencontre. C'est un mode de voyage qui est très seul. Et il y a des fois où il y a une envie quand même de poser les valises, d'avoir une maison, d'être quelque part chez moi, peut-être d'avoir une famille, d'avoir un travail stable. En fait, c'est tous ces tiraillements-là aussi dont je parle dans mon livre. C'est vraiment une introspection où je parle un peu de la réalité du voyage. Dans mon livre, je ne parle pas que des cartes postales et des anecdotes. Hein, je parle évidemment, ça en fait partie, les pannes, les crocodiles, les moustiques, et les tentes et les eaux cassées. Tout ça, ça fait partie du voyage. Mais je parle aussi beaucoup de la réalité, qui est la solitude, la fatigue, les doutes. Et puis, ben, où je vais ? Qu'est-ce que je fais ?
Bah, oui, on a l'impression, à t'écouter parler, qu'il y a ce désir de te réaliser. En tant qu'individu qui ose, qui entreprend, qui va toujours de l'avant pour découvrir et apprendre. Et en même temps, donc, il accepte aussi la distance hein, par rapport à justement des lieux, des personnes. Et en même temps, ce besoin d'enracinement, quoi. La moto qui bouge, mais aussi la moto qui a besoin d'avoir... une place,
un garage.
Tranquille, un garage, et ses racines autant familiales que aussi terriennes. On se sent très, en même temps, globe rider, je dirais, et en même temps, très terrienne.
C'est ça. Donc, d'où le retour nécessaire dans le Nord. Le retour vraiment nécessaire ici.
Et pour notre grand plaisir, Fanette.
Hate in you. twist of fate, all our roles could reverse. You could be insane, I could be perverse. Only one thing makes me sane. I don't need you, 'cause all the world's in me, all the world's in you. An eye for an eye, a tooth for a tooth. You kept hostages, I feel the skies, and we both went on killing. Despite all their cries, only one thing makes me sane. I don't need to. Man, God, I got all my mind. It's man, God, I got in my mind. It's man, God, sometimes, but it blows my mind.
Patricia, la conclusion avec Fanette, hein, notre Australienne.
Oui, elle va donc est en train de rédiger un livre et on est déjà tout curieux d'en connaître le titre.
Alors, je ne vais pas vous dévoiler le titre aujourd'hui. Vous le connaîtrez au moment de la sortie du livre et puis vous serez les premiers à savoir quand le livre sera donc publié. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux vous lire un extrait. Et puis, si vous êtes bien attentif, peut-être que vous entendrez le titre entre les lignes.
On t'écoute, Fenêtre.
Alors, c'est un texte que j'ai écrit et adressé à une de mes cousines pendant mon voyage et qui fait... j'écris donc mon livre sous forme également de lettres. Chère cousine, je prendrai bien un café en terrasse sur une place dans l'un des quartiers vivants de Marseille avec toi. Ou un mojito plutôt. Ouais, un mojito. J'en ai plus besoin que d'un café en ce moment. On se raconterait nos amours échoués, nos plaisirs réussis, comment la vie nous pousse en avant, nous rattrape parfois et nous rejette à nouveau avec la fougue, comme des galets aux prises avec les vagues, sur une plage, comme il y en a par chez moi, là d'où je viens, dans le Nord. Je te raconterai ma vie en Tasmanie, dans cette ferme laitière où je passe tout mon temps à travailler, à dormir entre chaque traite et à manger comme un camionneur en hypoglycémie. Rien de bien folichon sur le moment, mais en te le racontant, en te narrant mes aventures insulaires et solitaires, jonchées de bouses de vaches, de rancards Tinder loufoques et de paysages fantastiques, je réaliserai combien je ne regrette rien. On construit sa vie à coups de décision, de hasard et d'instinct. Moi, vu de près, mon tableau ressemble à rien, je dois l'admettre. Des ecchymoses, des bouts d'eau pétés, nombreux sont ceux qui me disent de penser à arrêter de rouler, arrêter d'essayer. Moi, je crois que ceux qui ont le plus peur de la mort, de souffrir, ont surtout très peur de la vie et d'en jouir. Enfin, c'est mon avis. Bref, mon tableau est un sacré méli-mélo. La perspective fout le camp. Les lignes de fuite partent en zigzag, comme sur mes cartes routières. L'horizon prend tout le champ. Les couleurs, on n'en parle pas. Ça hésite entre l'orange des couchers de soleil et le rouge sang. Le noir du ciel au réveil et le blanc de la brume dans les montagnes. Quand tu crois que c'est romantique, tu réalises qu'il n'y a pas plus abstrait que les sentiments qui suintent de la toile. Un jour, quelqu'un trouvera ce tableau dans une brocante, calé contre le rebord du caniveau, entre du matériel de camping usé et une pile de bouquins aux pages toutes gribouillées de notes. Personne n'y verra ce que j'y vois. Une vie à moi, une vie vécue selon mes choix. Bon, je voulais t'écrire une lettre toute simple, te dire le temps qu'il fait et comment je vais. Bah, tu vois, c'est râpé. Prends bien soin de toi et de tes rêves. Fanette.
Eh bien, écoute, Fanette, un grand merci pour tous ces bouts de vie partagés. On est gourmands de la suite.
Et merci à vous de me permettre de partager tout ça avec vous.
Très bien, donc tu reprends l'avion quand ?
J'ai pas encore pris mon billet.
Ah, bon, ben écoute, mais tu vas le faire.
Oui.
Bien sûr. Très bien, ben, l'émission se termine. Et puis merci Patricia, merci Fanette hein, pour ce voyage en Australie. Ça nous fait rêver. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Bon dimanche.
Bon dimanche à tous et à toutes.